pas juste une simple loi.
Merci, Max. On s'en va aux États-Unis d'Amérique en rejoindre notre ami David Chabot, qui est chroniqueur politique international. Salut, David!
Salut, je me suis transformé en journaliste de terrain pour toi ce matin, Marceau.
Ben oui, toi, t'es précisément à Miami, c'est ça?
Pas exactement. Je suis proche de Tampa en ce moment, puis je vais bouger vers Orlando tantôt dans la journée.
Parle-moi de ta vie difficile, David. Comment ça va avec cette température-là?
Ah, écoute, ben honnêtement, hier, il faisait frette et il mouillait pas pire, là. Fait que je peux pas dire que je m'ennuyais du Québec, mais c'est pas idéal non plus, là.
Ah, je te souhaite c'est la meilleure des températures, mon ami. Est-ce que les Américains parlent justement des agissements du président des États-Unis sur Truth Social en disant qu'il allait anéantir une civilisation complète?
Ben écoute, dans les médias, évidemment que c'est couvert abondamment, là. Ouais. Tu t'ouvres la télé, puis moindrement que c'est pas un channel de sport, ça parle de ça. Mais je peux pas te dire que j'ai parlé à tous les Floridiens que j'ai croisés de ça, là, mais personne m'a parlé de ça. J'ai pas entendu ça dans les restaurants au Walmart nulle part, là. Donc j'ai pas l'impression que tout le monde est sur le bout de son siège à attendre la fin de la guerre là, pour monsieur et madame tout le monde dans le coin ici. Là.
Ouais, moi, les Américains, ce qui me marque, là, c'est que quand ça va bien, ils s'intéressent très peu à l'actualité. Ça a l'air de bien aller pour eux autres, là. Surtout dans le secteur de la Floride, là, oui. Principalement Miami, où j'ai été il y a de ça quelques mois. Là. Ça a l'air de bien aller pour eux autres. Puis l'actualité, Donald Trump, ils n'en ont rien à battre tant que ça les touche pas. Là.
Ouais, j'ai l'impression qu'il doit avoir une espèce de fatigue aussi, là, parce qu'à tous les jours, il y a une nouvelle crise dans les journaux. Là, évidemment, l'Iran, c'était plus majeur. Là. Mais tu sais, rappelons-nous, Venezuela, à Cuba, avec les crises intérieures aussi, avec toutes les manifestations au Minnesota, tu sais, on fait le bilan, dans le fond, de l'année et quart et demi là, qui a été fait à date, puis je vous dirais que ça peut être fatigant pour quelqu'un qui reste ici de lire le journal. On est tanné, nous autres, d'entendre parler de sa clique puis de la course à la chefferie, mais c'est rien par rapport à comment ça se passe aux États-Unis en ce moment.
C'était-tu des menaces qui étaient à prendre au sérieux hier, Donald Trump, qui menace d'anéantir une civilisation complète? T'sais, au Québec, moi, je pensais plus aux victimes innocentes. Là. En Iran, sincèrement, le gouvernement puis les barbus qui terrorisent les femmes dans ce secteur-là, j'en ai rien à battre, mais je pensais plus aux femmes et enfants. C'était-tu des menaces à prendre au sérieux?
Ben, tu sais, c'est sûr qu'il est spécialiste dans l'enflure verbale, puis il est un peu condamné à son propre personnage, parce que à toutes les fois qu'il fait des nouvelles menaces, il faut que ce soit pire que la précédente pour dire qu'il y a une escalade puis que les gens prennent ça au sérieux. Donc là, quand t'es rendu à parler d'éradiquer une civilisation, ce qui est un peu absurde quand même, parce qu'une civilisation en soi, c'est pas juste un pays ou des infrastructures, là, mais tu sais, il est allé loin. Là. C'est la première fois qu'il va aussi loin que ça. Personnellement, j'ai pas pris ça tant que ça au sérieux au départ. Là. T'sais, évidemment, ça aurait pu venir avec des frappes massives, des attaques sur des infrastructures civiles, ce qui est quand même pas banal non plus, là, mais t'sais, tout le monde a pensé au nucléaire tout de suite en lisant ces mots. Le nucléaire a été mis de côté quelques minutes après par la Maison-Blanche. Là, donc, finalement, qu'est-ce qui restait, c'était à peu près ce qu'il fait en ce moment, là, ou ce qu'il faisait là, avant le cessez-le-feu, c'est-à-dire frapper militairement avec des avions, des bombes, etc., etc. Donc, est-ce que ça aurait été vraiment pire que c'était avant? Je pense qu'on était à risque d'escalader ça vers une guerre qui attaquait justement les civils. Comme tu le dis, là, ça aurait été une catastrophe humanitaire. On a évité ça, heureusement. Puis là, ben, finalement, là, c'est la grande victoire ce matin. Tout le monde est gagnant, comme dans un sondage de radio, où tout le monde finit numéro un.
Ouais. Ben, tu sais, il y a des partisans de Donald Trump dans notre société. Il y a des gens qui sont contre Donald Trump. Moi, personnellement, Donald Trump, je le regarde aller. Puis parfois, je suis en accord avec ce qu'il fait. Parfois, je trouve que le gars est rendu pratiquement sénile. Mais hier, ce que je voyais beaucoup hier, c'était les tacos, là, les fameux tacos sur Internet qui disaient « Trump always chickens out ».
Ouais, ben c'est un peu ce cas-ci là. Évidemment, il va nous dire que ça a été une grande victoire, puis qu'il y a des grands gains pour l'Amérique parce que le détroit d'Hormuz est ouvert. Puis on fait toute la même blague, chacun de notre bord, de dire c'est sûr que rouvrir un détroit qui était ouvert avant que tu y ailles, c'est pas nécessairement une grande victoire.
Mais c'est ce qu'on jasait avec Max ce matin. À part l'Iran là, ce matin, il y a pas grand gagnant. Là.
Ben je te dirais qu'il y a le Pakistan qui est gagnant parce que ironiquement, je pense que le premier ministre pakistanais pourrait avoir les chances de gagner le prix Nobel de la paix avec ce qu'il a fait dans le conflit. Ce serait quand même paradoxal. Là. Mais sinon, moi je pense que c'est l'Iran qui a gagné les deux doigts dans les airs avec le signe de victoire. Là. C'est assez clair qu'ils ont été résilients, ils ont enduré les frappes. Puis finalement, ils n'ont rien concédé, en tout cas à date, là, de ce qu'on sait publiquement.
De ce que je vois, là, c'est des propositions. Ça n'a pas encore été accepté, mais c'est des propositions. L'engagement initial des États-Unis à fournir des garanties de non-agression, le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Hormuz, la reconnaissance du droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium, et ça, Trump était supposé d'être contre ça, incroyable. Finalement, ça ne semble pas l'être tant. La levée de toutes les sanctions primaires, la levée des sanctions secondaires, l'arrêt des résolutions contre la République islamique votées par le Conseil de l'ONU, la fin des résolutions votées par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les versements à l'Iran des indemnités nécessaires pour les dommages qui ont été causés, les retraits des forces militaires américaines dans la région de l'Iran, la cessation des combats sur tous les fronts, dont celui du Liban. Puis là, ben, on me dit du côté du Liban là, que ça n'a pas été accepté. Là, donc, il y aura encore des frappes dans les dernières heures. Mais quand même, il n'y a pas grand victoire des États-Unis, si ce n'est que le passage de pétroliers dans le détroit d'Hormuz. Là.
Ouais, ben, tu sais, toutes ces conditions-là, je doute que ce soit vraiment ce qui va se passer pour vrai, là. Évidemment, les points de négociation sont toujours plus rough de chacun des bords avant de se rendre au centre, mais moi, je pense qu'on va en sortir de là avec un genre de statu quo où le détroit va redevenir ouvert. Il y aura certaines concessions sur le contrôle ou la surveillance du nucléaire iranien. C'est sûr que si on refuse, en fait, si on n'accepte pas de totalement laisser tomber le nucléaire de ce côté-là, c'est une très, très grande défaite là pour les États-Unis là-dedans. Pour ce qui est des bases militaires dans le secteur, pis ça, j'y crois pas, là, honnêtement, je pense pas que les États-Unis vont se retirer du Moyen-Orient en claquant des doigts comme ça. Là. Donc, c'est quoi la vraie vérité au fond des choses, je le sais pas trop, mais je prédis quand même un genre de statu quo où tout le monde va essayer de spinner ça de son bord. Mais on va revenir à la situation initiale avant que les bombes tombent puis qu'on fasse tout péter. Là. Il y a certains dirigeants iraniens qui sont plus là, donc là, ça va changer un peu l'échiquier, mais ultimement, qu'est-ce que ça change concrètement sur les relations entre les pays? J'en vois pas beaucoup de différence. Outre le fait qu'on a confirmé finalement que l'Iran avait le pouvoir de fermer le détroit puis ça faisait mal à tout le monde. Donc je trouve que la position géopolitique de l'Iran a vraiment été renforcée dans toute cette histoire-là, même si on mangeait une coupe de bombes ça a poire, là.
David, dans les différents cessez-le-feu qu'il y a eu avec le Hamas dans la bande de Gaza, il y a toujours eu quelqu'un qui a quand même envoyé une bombe ou tué quelqu'un, là, je vais prendre cette expression-là. Est-ce que ça pourrait être le cas encore vu que le dossier implique Israël et implique encore un groupe terroriste qui est le Hezbollah?
Oui, ben c'est ça. Là, ça, c'est préoccupant parce que Israël est vraiment en mode « je fais le ménage ». Là, puis là, ben, ils sont retournés au Liban puis ils ont commencé à faire des combats il y a quelques semaines. Puis là, ils veulent pas arrêter. Gardons en tête tout le monde que le Hezbollah, c'est une espèce de franchise chiite là, de l'Iran. Là, c'est pas exactement comme ça, mais ils sont très, très, très proches de ça. Donc, si les combats continuent en Iran, c'est sûr que ça va irriter, au Liban, ça va irriter le régime iranien, certainement. Sauf que là, c'est une situation où tout le monde doit mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que même si on dit que l'Iran va être victorieuse de cette situation-là, ils sont quand même sûrement tannés de se faire bombarder. Là. Donc là, il va y avoir des espèces de trucs inacceptables qui vont être acceptés à cause de cet état de fait-là. Mais ultimement, je pense pas que l'Iran va arrêter de financer le terrorisme, puis je pense pas non plus que le Hezbollah va fermer sa shop au Liban juste parce que ils se le font demander, tout comme le Hamas à Gaza, puis tout comme les Houthis au Yémen, puis toutes les autres franchises à travers la planète. Tu sais, quand l'intervention a commencé en Iran, j'espérais qu'on change complètement le régime pour vraiment avoir la paix de cette situation-là où le terrorisme était comme rendu usuel là, à cause de l'Iran. Là, malheureusement, on n'a pas atteint cet objectif-là. Puis finalement, le plan initial, c'était juste de frapper en espérant que les dirigeants disent en Iran, écoute, sais-tu quoi, je vais taper out puis je vais m'en aller. Finalement, ça a vraiment pas été ça. Puis on revient un peu à la même place où ça va rester une menace dans le secteur, donc pour Israël.
Ça va être quoi les prochains jours, les prochaines semaines?
Ben, ça va être un cessez-le-feu un peu fragile, là, tu sais, reste que...
Mais Israël, bon, vas-tu respecter ça?
Ben, vers l'Iran, je pense que oui, parce que, tu sais, Israël a quand même beaucoup besoin des États-Unis. Il y a beaucoup d'argent puis d'armement qui vient des États-Unis vers eux. Donc, Netanyahou est pas fou à temps plein, là. Il sait qu'il a besoin du support américain. Puis d'ailleurs, il s'est fait accuser d'être mou à cause du cessez-le-feu par l'espèce mettons, on va dire radical en Israël. Là. Donc là, lui, je sais pas localement comment il va se sortir de ce conflit-là, parce qu'il s'est fait dire de finir la job puis il n'est pas fini, là, concrètement. Mais tu sais, il a comme pas le choix de suivre le lead américain. Puis historiquement, ça a toujours été ça. Tu sais, Joe Biden puis Barack Obama ont vraiment modérer beaucoup Israël dans des situations tendues. Évidemment, l'attaque du 7 octobre 2023 a changé bien des choses, mais là, on sentait que Donald Trump n'était pas dans un mode « je vais te contrôler », mais plus dans un mode « dis-moi où est-ce qu'on va, puis on y va ensemble ». Donc là, jusqu'où Israël va tester sa corde, mettons, dans cette histoire-là. La question est complète, là, j'ai hâte de voir, mais j'espère qu'ils iront pas trop extrêmes là-dedans, là, parce qu'il faut que ça arrête quand même de se tirer dessus. Là.
David Chabot, t'es la personne la plus ferrée pour ce qui est de la politique internationale que je connaisse. Pourquoi on a décidé d'attaquer l'Iran?
Ben écoute, premièrement, merci pour le compliment. Je suis pas sûr que c'est vrai, mais écoute, je vais l'accepter. Mais pourquoi on est allé en Iran? T'sais, historiquement, ça a toujours été une méga roche dans le soulier du Moyen-Orient. Ouais. Je pense que Israël, depuis octobre là, 2023, comme je disais, sont vraiment dédouanés de faire le ménage dans le secteur. Puis là, ils ont appelé à Washington puis ils ont dit « Hey man, sais-tu quoi, j'ai une bonne idée. Quoi? On s'en va à Téhéran. OK, parfait, j'embarque. » Donc là, tu sais, c'est une administration pour Trump là, qui semble être un peu naïve par rapport à ses capacités, là, dans le sens que ça reste l'armée la plus forte de l'histoire de l'humanité. Puis là, avec le renforcement du budget qui est demandé, ça serait comme rajouter de la crème sur le crémage, sur le sucre, sur la cerise. Là. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de naïveté comme quoi les forces armées, c'est la panacée, puis ça fait tout. Mais tu sais, rappelons-nous que quand ils ont coupé le financement de USAID puis de plein d'initiatives à travers la planète, on nous disait que c'était pour des questions budgétaires puis de contrôle des finances puis blablabla. Mais toutes ces initiatives-là, c'était du ce qu'on appelle du soft power. Donc, c'est pas du hard power comme l'armée, c'est de l'influence, comme la Chine fait à travers la planète. Puis là, la politique à Trump, finalement, c'était de se retirer beaucoup du soft power puis d'utiliser seulement le hard power. Donc là, au final, pour répondre directement à ta question, je pense qu'on pensait rentrer là, sacrer des bombes à Téhéran, puis dire qu'on a un changement de régime, puis se taper dans le mythe, comme on a fait au Venezuela. Finalement, ça a vraiment pas été si facile que ça, puis ça a été une leçon très difficile pour Trump, Exet, puis Marco Rubio, qui se rendent compte finalement que la vraie vie est plus compliquée que sur un jeu vidéo.
Parfait. Aux États-Unis maintenant, y a-t-il un mécanisme qui va faire en sorte qu'on va questionner la façon de faire de Donald Trump, la façon de faire d'Israël pour aller directement attaquer l'Iran?
Pas vraiment, parce que le président a une prérogative. Dans la mesure où il informe le Congrès 48 heures après le début des frappes ou une intervention, il y a comme un comité permanent là, sur ces questions-là qui peut le dédouaner. Puis là, rappelons qu'il y a encore la majorité des deux chambres, là, du Sénat puis de la Chambre des représentants. Donc là, pour l'instant, dans la mesure où le Parti républicain suit la danse, il est légitimé de continuer. Par contre, hier, il y a eu une partielle en Géorgie. Puis c'était pour remplacer Marjorie Taylor Greene, là, qui était une méga, méga fan de MAGA, puis qui a finalement déchanté pas mal avec l'histoire des Epstein Files. Donc là, les Républicains ont gardé ce siège-là, mais ils ont perdu une vingtaine de pourcents par rapport à la dernière élection. Donc le vrai mécanisme de contrôle, pour répondre à ta question, c'est les élections. Puis on en parle tout le temps, mais les midterms aux États-Unis, c'est quand même un gros tremblement de terre à chaque mandat présidentiel. Puis ça s'en vient assez vite, là, c'est en novembre prochain. À ce moment-là, je présume qu'il y a un gros changement de pouvoir qui va se passer si les midterms peuvent avoir lieu comme c'est prévu. Là. Donc, c'est là que ça va se passer, vraiment, le changement, la perte de contrôle, si on veut, exécutif de la part de Trump, parce que le Congrès a beaucoup de pouvoir sur le budgétaire, notamment. Là.
David Chabot, ça nous a fait un plaisir de te déranger pendant tes vacances en Floride.
Écoute, faut que je te laisse. De toute façon, je m'en vais au tee-off. Là. J'ai un départ dans 10 minutes à TPC Tampa Bay.
Et cœur-nous pas avec ton bonheur.
Ça, c'est plate.
Écoute, ça me fait plaisir de vous écœurer.
Salut mon chum.
Salut, bye.
Bye bye. David Chabot, notre chroniqueur politique international qui est toujours franchement intéressant. Mais c'est ça la grande question, tu sais. Qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas?
Ben oui.
Parce que moi, d'aller détruire des têtes dirigeantes qui sont des dangers